Voilà. Donc bonjour à nouveau à tous. Nous sommes dans la joie quand nous entrons dans la maison de l'Éternel, parce que nous y trouvons sa présence et nous y contemplons sa gloire. Donc que ce qui va être partagé ce matin puisse contribuer à éclairer un petit peu plus pour nous la personne de Jésus, parce qu'au fond il n'y a que ça qui compte. Hein. Et pour cela, donc après la série des sept lettres de Jésus adressées aux sept églises d'Asie mineure, donc ça a été l'objet des huit messages précédents, le huitième étant la synthèse, voilà, quand il m'a été proposé de poursuivre, j'ai pensé à la première épître de Jean. La première épître de Jean, d'abord parce qu'elle est magnifique, deuxièmement parce qu'évidemment elle nous parle de Jésus, mais elle permet également, on ne va pas le voir nécessairement aujourd'hui, mais d'aborder un certain nombre de points clés de la vie chrétienne. La place du péché, la question de la lumière, la communion fraternelle, l'esprit antichrist. Voilà, des thèmes. Et aussi la nouvelle naissance. Qu'est-ce que veut dire être né de nouveau? Il y a certaines paroles dans la première épître de Jean, quand on les lit, on se dit « Oups !» Voilà, c'est ça qu'on va aborder. Donc, mine de rien, on va aborder des sujets extrêmement profonds à partir d'une épître qui fait 5 chapitres, qui paraît modeste, mais en fait, comme d'ailleurs l'évangile de Jean, c'est un texte qui est extrêmement profond. Pourquoi ? Parce qu'il témoigne avant tout de l'intimité qu'a connue l'auteur avec Jésus lui-même. Et d'une manière qui est très différente de celle de Matthieu, Marc ou Luc. Puisque des trois, Matthieu, Marc ou Luc, il n'y a que Matthieu qui fait partie des 12, hein, je vous le rappelle. Marc et Luc ne font pas partie des 12. Donc Matthieu a connu cette communion avec Jésus, Jean a connu cette communion avec Jésus, mais on voit très bien la différence dans la manière d'exprimer cette communion et cette intimité. Donc je vous avais envoyé à la fin de l'année donc une traduction de cette première épître de Jean à partir de la version araméenne. Donc ça, je vous le donne pour culture. Je ne sais pas si ça a été distribué, Abdel.
J'ai envoyé les mails. Mais
voilà. Donc ça, c'était juste pour avoir une idée un petit peu de, voilà, des endroits où il peut y avoir des petites variations. C'est toujours bien d'être confronté à plusieurs traductions d'un même texte. Hein, ça peut être en français la seconde, la Darby, la Martin. Des fois, on est tellement prisonnier d'une traduction qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on est en train de lire. Donc, c'est bien d'être surpris par des mots et des tournures de phrases dont on n'a pas l'habitude. Donc, aujourd'hui, on va regarder ce qui s'appelle le prologue de cette épître, c'est-à-dire les 4 premiers versets. Simplement ça. Donc, je vais vous les lire dans une version donc, traduite à partir de l'araméen et que j'ai légèrement simplifiée par rapport à la traduction littérale que je vous ai envoyée. Et donc, voilà comment ça commence. Nous vous annonçons une bonne nouvelle. Voilà comment le texte araméen commence. Nous vous annonçons une bonne nouvelle. Celui qui était dès le commencement, dès les prémices et l'origine du monde donc. Celui que nous avons écouté, celui que nous avons vu de nos propres yeux et que nous avons touché de nos propres mains. Celui qui est la parole de vie. Et en araméen, la parole, melta, c'est pas simplement la parole, c'est la manifestation, l'émanation, ce qui émane de Dieu. Et qui nous permet de nous rendre Dieu perceptible, accessible, concevable. Et la vie a été révélée. Et nous avons vu, et nous témoignons, et nous vous prêchons la vie éternelle, celle qui était auprès du Père et qui s'est révélée à nous. Vous voyez que tout est centré là sur Jésus. Et les choses que nous avons vues et écoutées, nous vous les faisons connaître à vous aussi, afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus, le Messie, celui qui a été oint de l'Esprit de Dieu. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie qui est en vous et par vous soit complète. Donc d'emblée, l'auteur nous dit pourquoi il écrit ces choses, pour établir la communion les uns avec les autres. Donc que le Seigneur puisse bénir ce qui va être dit en son nom ce matin. Alors en guise d'introduction, qui est l'auteur de l'épître? Alors tout le monde dit, ben, c'est Jean. Oui, sauf que l'épître ne le dit pas. L'épître est anonyme. Et on retrouve là, j'allais dire, la pudeur que l'on retrouve dans l'évangile de Jean, où de la même manière, l'auteur ne se nomme pas. Mais quand on regarde les thèmes abordés et même les mots et les concepts abordés dans la première épître de Jean, on trouve tellement d'analogies avec l'évangile dit de Jean qu'on conçoit bien que l'évangile et la première épître viennent du même auteur. Ça, pour moi, c'est assez clair. Et ça l'est particulièrement dans l'original. En tout cas, moi, quand je le lis en araméen, c'est particulièrement clair. On a exactement les mêmes expressions, les mêmes mots, en particulier dans le prologue de l'évangile de Jean et tout le début de la première épître de Jean. C'est exactement le même vocabulaire, les mêmes expressions. Donc, il n'y a pas, à mon avis, de doute qu'on a bien affaire là au même auteur. Et clairement, cet auteur est un témoin direct de Jésus. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a touché de ses mains, c'est un témoin direct. Ce n'est pas des histoires qu'il a entendues et qu'il répète. Il a vu et il a entendu. Dans la deuxième et la troisième épître de Jean, il se fait simplement appeler l'ancien. Et dans le grec, presbytéros, et dans l'araméen, kachicha, c'est vraiment le terme ancien au sens de l'Ancien Testament, les vieillards, les cheveux blancs, les sages qui étaient réunis à la porte de la ville pour prononcer par exemple les jugements. Les anciens, donc à qui on se réfère et à qui on se soumet. Et voilà comment on présente l'apôtre Pierre dans le chapitre 5 de la première épître. Voilà comment il définit l'ancien. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, même mot, qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, et témoin des souffrances du Messie et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. L'ancien, c'est celui qui va veiller sur le troupeau au nom de Jésus. On a parlé beaucoup du rôle de l'ancien. Autrement dit, un ancien, c'est un pasteur, c'est quelqu'un qui veille, qui prend soin de brebis. Mais c'est tout le thème de la première épître de Jean. Quand on voit la sollicitude de Jean à l'égard de ceux à qui il s'adresse dans la première épître de Jean. Je vais y revenir sur ça. Donc voilà, il est anonyme. La tradition nous dit que ce Jean-là, donc d'abord que cette épître et l'évangile est attribué à Jean, et deuxièmement que ce Jean-là, c'est l'apôtre, parmi les douze. Alors je ne vais pas rentrer dans une controverse ce matin, mais en fait il y a des indices dans l'évangile en particulier qui nous laissent penser différemment, que le Jean, qui est l'auteur de l'évangile et de la première épître, n'est peut-être pas ce pécheur galiléen auquel on pense et à qui la tradition l'a attribué. Donc ça, un jour, si ça intéresse, je préfère une session pour vous montrer tous les petits cailloux blancs qui ont été semés dans l'évangile de Jean et qui nous permettent, je pense, de comprendre en fait qui est l'auteur. Mais l'évangile est anonyme, la première épître de Jean est anonyme, et ce qui compte, ce n'est pas tellement qui l'a écrit d'abord, mais évidemment ce qui a été écrit et ce qui nous est adressé. Donc c'est pour ça que je ne vais pas digresser plus sur qui est l'auteur. Par contre, ce qui est important, c'est à qui s'adresse l'épître. Et c'est là qu'on voit tout le souci pastoral de l'auteur, parce qu'il s'adresse à... Quelle est l'expression qui n'arrête pas de revenir dans la première épître de Jean? Il y a une expression qui revient 5-6 fois, 7 fois même. Regardez par exemple le chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, mes bien-aimés. Et c'est une expression récurrente dans la première épître de Jean. Et ça montre la sollicitude, alors c'est l'image que j'en ai, hein, la sollicitude d'un vieillard à l'égard de ses enfants spirituels. Mes petits enfants. C'est intéressant que exactement le même mot est employé par Jésus lui-même quand il s'adresse à ses disciples au chapitre 13, verset 33. Petits enfants, je suis pour peu de temps encore parmi vous. Et donc cette expression-là est une expression de tendresse, une expression de sollicitude. Mes petits enfants. Vous voyez ? Et ça, c'est un thème récurrent. Chapitre 2, donc dans la première épître, 2 verset 1, 2 verset 12, verset 28, 3 verset 7, 3 verset 18, 4 verset 4 et 5 verset 21. C'est une expression récurrente. Il parle à ses enfants. Ses enfants ont la foi, ses enfants par l'esprit. Donc on a bien ce contexte d'un ancien, d'un pasteur, d'un berger qui s'occupe de ses enfants. Mais je pense que ça va plus loin que ça encore. Parce que comprenez bien, il est important de savoir à qui l'auteur s'adresse et quelle est son intention. Parce qu'on retrouve également cette expression « enfant », mais dans un contexte légèrement différent. Donc je vais demander à quelqu'un, qui a une voix qui porte, je vais demander à quelqu'un ou à quelqu'une de lire le chapitre 2, versets 12, 13 et 14. Est-ce que quelqu'un peut lire chapitre 2, versets 12, 13 et 14 ? Et suffisamment pour que ça puisse être enregistré sur le micro.
Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais.
Voilà. Et là, il y a une nouvelle nuance qui est introduite. Parce que de deux choses l'une. Soit quand Jean écrit à mes enfants, ces enfants, termes d'affection, comportent des enfants, des jeunes gens et des pères. Et donc il qualifie de bien-aimés et d'enfants les enfants, les jeunes gens et les pères. Ou alors quand il dit enfants, il s'adresse à une catégorie particulière dans l'assemblée, dans son entourage. Et il est en train de leur dire, c'est plutôt comme ça que je le comprends, je vous envoie cette épître à vous, mes enfants, pour que vous deveniez ensuite des jeunes gens et que vous parveniez à la stature de père spirituel. Autrement dit, on peut comprendre toute la première épître de Jean comme un appel à la croissance, un appel à la maturité, et le passage qui vient d'être lu nous en donne trois stades, de l'enfance à, j'allais dire, l'adolescence, jeune adulte, jusqu'au père spirituel. Et chacun de ces trois stades est caractérisé par quelque chose de bien précis, qui sont des marqueurs de maturité. Donc, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, je le développerai quand on arrivera à ce passage. Et à partir de là, au-delà du terme d'affection « mes enfants », il est peut-être en train de dire, je vais vous donner les clés qui vont vous permettre de croître, de grandir, de devenir adulte, de devenir mûr, de devenir à votre tour des pères et des anciens capables de veiller sur de nouveaux enfants, etc. Donc je vois dans le passage qui vient d'être lu un appel à la progression, la croissance vers la maturité, et donc le fil conducteur de tout ce que je vais dire aujourd'hui et les prochaines fois sur la première épître de Jean, ça sera ce fil-là, un appel à la maturité. Et pour introduire cette première épître de Jean, donc les quatre premiers versets qu'on appelle le prologue, vont souligner trois points. Trois points dans le passage que j'ai lu au départ. La première, c'est que la bonne nouvelle, c'est une personne. C'est Jésus lui-même. Ça commence par là. Le deuxième point, c'est qu'en Jésus, seul est la vie. Nous annonçons la vie. C'est ce que dit Jean à nouveau dans le prologue. Et enfin, que le but de cette vie, c'est la communion les uns avec les autres par l'Esprit. Donc c'est très simple. D'abord, je vous annonce une personne en qui est la vie et par laquelle nous aurons la communion. Et donc, ce sont les trois points que je vais développer ce matin. Donc très simplement, sans faire trop compliqué, parler de Jésus ne devrait pas être très compliqué. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc premier point, la bonne nouvelle, c'est Jésus. Alors, ça paraît simple quand je dis ça. Mais ce qu'on appelle la conversion résulte d'une rencontre personnelle avec Jésus, avec une personne. Quand on devient chrétien, on ne rencontre pas une église, fût-elle la meilleure. On ne n'adhère pas à une théologie, fût-elle la meilleure. On n'adhère pas au message d'un homme, fut-il le plus brillant. Et combien souvent nous réduisons notre vie chrétienne à notre confession de foi, notre église, j'adhère à ceci, j'adhère à cela. Non, on devient chrétien parce qu'on a rencontré un homme, parce qu'on a rencontré Jésus, parce qu'on a rencontré le Fils de Dieu. Ça paraît trivial, mais c'est les années de marche dans la vie chrétienne qui vont en fait révéler si celui qu'on a rencontré c'est bien Jésus ou si on a juste adhéré à une théologie comme on adhère à une théologie, si on a grandi dans une église par tradition mais pas par rencontre du vivant. Au fil des années, c'est ça qui est révélé. Est-ce que c'est bien le Fils que l'on a rencontré au départ? Et au fond, chacun sait au fond de lui-même, donc je n'ai pas besoin de prendre de grands arguments, chacun sait si c'est bien le Fils qu'il ou elle a rencontré. Parce que si c'est le cas, l'Esprit l'atteste à notre esprit. Si ce n'est pas le cas, on va voir ce qui se passe si ce n'est pas le cas. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 11, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. » Si Jésus n'est pas au fondement de notre vie, si Jésus n'est pas celui que nous avons à un moment ou à un autre de notre vie rencontré, en fait, on ne pourra pas comprendre la suite du cheminement qui ne se résume qu'à une seule chose. On en a longuement parlé encore hier soir et ce matin. La seule chose que nous faisons lorsque nous avons rencontré véritablement Jésus, c'est de courir après lui pour le saisir parce qu'il nous a saisi le premier. C'est ce que dit Paul vers la fin de sa vie. Lui, le brillant Paul, avec toute la connaissance qu'il avait des mystères de Dieu, résume sa vie à une seule chose. Je cours pour le saisir parce qu'il m'a saisi le premier. Donc si nous n'avons pas été saisis en premier par le Seigneur, nous allons courir, mais pas vers ce but-là qui consiste à le connaître intimement et à nous attacher à lui. Et ça, c'est quelque chose qui ne se révèle qu'avec le temps. C'est avec le temps qu'on finit par voir si on est attaché à Jésus ou attaché à d'autres choses. Pour employer un autre langage, c'est ce qui va faire la différence entre les appelés et les élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La différence entre l'appel et l'élection, l'appel c'est ceux qui sortent d'Égypte, l'élection c'est ceux qui entrent dans Canaan. Et le passage dans le désert, c'est ceux qui s'attachent à Jésus. C'est ce qu'il dit dans le Deutéronome. Je vous ai entraîné dans le désert afin que vous connaissiez votre cœur et savoir si vous êtes attaché à moi. Donc, ce qui va être révélé par le désert, les épreuves de la vie, c'est si nous sommes attachés à Jésus ou si nous imitons la vie chrétienne. Ça, c'est le fondement de l'évangile. Alors, la rencontre peut être soudaine à la Damas, hein, Paul qui tombe de son cheval quand le Seigneur lui apparaît, ou alors c'est une prise de conscience progressive. Donc, on ne va pas normaliser la manière dont on rencontre le Seigneur. Mais l'important, c'est qu'à un moment donné, on sait que c'est à lui qu'on a affaire. C'est une personne. Et si le fondement de l'évangile est une personne, ça veut dire que l'évangile doit être vécu de manière relationnelle avant d'être vécu de manière rationnelle. Quand j'ai découvert, par exemple, les écrits de Calvin, alors ça paraît compliqué, Calvin, calvinisme, système théologique, etc. Mais quand en fait on lit les écrits de Calvin, on se rend compte que Calvin ramène tout à une seule chose, l'expérience de l'union avec le Fils. Fils dans lequel le Père a tout mis. Il a mis sa justice, il a mis sa sagesse, il a mis son esprit. Tout ce dont on a besoin est en lui et non pas en nous. Et nous en bénéficions par l'union avec lui. Donc j'aime bien cette formulation de l'évangile par la quête de l'union avec Jésus. Il a tout, je n'ai rien. Il sait tout, je ne sais rien. Il peut tout, je ne peux rien. Il détourne nos regards de nous-mêmes et centre notre regard sur lui. Donc la bouche parle de l'abondance du cœur, pas de l'abondance de la tête. Quand on parle trop de l'abondance de la tête, c'est qu'il y a un problème. Jésus, c'est d'abord la rencontre avec une personne et il se vit de manière relationnelle. Je n'écarte bien évidemment pas la théologie quand je dis ça, je le dis à chaque fois, mais la connaissance est subordonnée à la relation à Jésus. Ce n'est pas la connaissance en tant que telle qui nous amène à Jésus. Et dans ce cadre-là, Dieu choisit les choses viles, les choses folles, les choses faibles. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, mais que si l'on se glorifie, comme dit l'apôtre Paul, cela soit en Jésus et en Jésus seul. Mais en choisissant les choses folles, faibles et viles, Jésus lui-même est passé par ça. C'est toujours frappant quand on lit, par exemple, dans Marc 3, verset 21, les parents de Jésus, donc la parenté de Jésus, ayant appris ce qui se passait, Jésus en train de faire des miracles, vinrent se saisir de lui, car il disait, mais il est fou. Lui aussi est passé pour fou, pour vil, et même à la croix, pour faible, le plus faible des hommes. Et c'est pourtant lui que le Père a élu. Ça, ça a une conséquence extrêmement importante, puisque, à nouveau, le contexte de la première épître de Jean, je pense, est d'abord de s'adresser à des enfants, que je prends, si je prends enfants, jeunes gens, adultes, à des jeunes convertis. C'est en fait une catéchèse. C'est un enseignement adressé à des jeunes convertis. C'est comme ça qu'on peut voir la première épître de Jean. Et ça, ça soulève la question de savoir, c'est une petite parenthèse, mais complètement liée à ce dont on parle ce matin, comment accompagne-t-on des jeunes convertis qui ont rencontré Jésus? Il y a deux manières de les accompagner. Puisqu'il est dit dans la parole par ailleurs que tous sont enseignés de Dieu par l'Esprit. Ça veut dire que quelqu'un qui a véritablement rencontré Jésus, dès le tout premier jour de la conversion, Dieu va commencer à l'enseigner par l'Esprit, à la lecture de la parole. Et donc le rôle de l'ancien, comme Jean, ça sera d'accompagner l'œuvre de l'esprit dans la personne. Alors, pour bien comprendre ce que je veux dire, je vais l'opposer à une autre manière de faire, qui consiste à bourrer le crâne du jeune converti ou de la jeune convertie avec toute la confession de foi, ma théologie, premièrement, deuxièmement, troisièmement, et on est complètement orthogonal à ce que Dieu est en train de dire à la personne. Au lieu de nous-mêmes de nous soumettre à l'esprit qui est en train d'agir chez le jeune converti, on est en train de vouloir lui bourrer le crâne avec notre théologie, notre manière de voir, notre confession de foi. Et on est en train de lutter, en fait, contre l'œuvre de l'Esprit de Dieu chez le jeune converti. Jeune qu'il ait 10 ans ou 80 ans, hein, mais jeune dans la foi. Vous voyez ? C'est des choses ça, que j'ai vues, hein, donc je ne parle pas en l'air, je l'ai vu ça. Comment on peut, paradoxalement, en voulant enseigner, aller contre l'œuvre de l'Esprit chez quelqu'un qui est nouvellement converti. Parce qu'au lieu de respecter ce que l'Esprit est en train de lui dire, dans l'ordre dans lequel il est en train de lui dire, et on est juste là pour accompagner, on se met à imposer dans notre Église, c'est comme ça que l'on voit, voilà notre théologie, pam, 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 pam. Et on pense que la croissance vient par la transmission d'une connaissance, alors qu'elle vient par le développement de la vie de l'Esprit chez le jeune, s'il est effectivement, s'il a véritablement rencontrer Jésus. Donc, vous voyez, tout le centre, le sens de la première épître est vraiment celle de l'accompagnement des enfants pour qu'ils deviennent jeunes gens et pour qu'ils deviennent pères. Donc, c'est pour ça que je souligne ce point particulièrement, puisque je l'ai vu de mes yeux. Avant de basculer vers le deuxième point, la vie, un autre qui est intéressant dans cette rencontre avec Jésus, autant les apôtres que les disciples qui entouraient Jésus, alors dès qu'on pense à disciples, je pense d'emblée à Lazare et ses deux sœurs, puisque Jésus naviguait entre la Judée et la Galilée, et à chaque fois qu'il redescendait en Judée, hop, il allait à Béthanie, chez Lazare, avec Marthe et Marie. Donc voilà, il y a les apôtres, il y a le cercle des disciples, mais tout cela ont écouté, ont vu, ont touché. C'est pour ça qu'ensuite, ils ont pu rendre témoignage. On pense évidemment à le disciple que Jésus aimait, Jean 13, verset 23, qui était couché sur le sein de Jésus. Quelle expérience intime, hein ! Il faut savoir qu'autour des repas, donc, les gens étaient allongés, donc sur le côté, et donc ils se laissent tomber en arrière avec Jésus qui est juste derrière, ils se laissent tomber sur sa poitrine. Expérience de la rencontre qui est la base du témoignage. On ne peut pas rendre témoignage de ce que l'on n'a pas vu, de ce que l'on n'a pas entendu. Sinon, on ne transmet qu'une connaissance sèche et vide. Et dans ce cadre-là, il y a vraiment un exemple dans l'évangile de Jean qui à chaque fois me touche énormément. C'est l'exemple de l'aveugle né dans Jean 9. Jésus va le guérir. Immédiatement, mais d'emblée, il est confronté aux religieux. Et Jésus le laisse se dépatouiller. Jésus le guérit, il disparaît. Et il laisse l'aveugle, qui était aveugle, qui a retrouvé la vue, il le laisse face aux religieux. Et là, l'aveugle ne peut dire qu'une seule chose. Chapitre 9, verset 25. Je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Et il va même aller plus loin. Il a un jour de conversion. Hein. Il vient juste de rencontrer quelqu'un dont il ne sait même pas encore que c'est Jésus. C'est ensuite, une fois que Jésus l'a laissé se dépatouiller, ensuite, il va trouver Jésus. Et Jésus va se révéler en disant, mais c'est moi qui t'ai guéri. Et l'aveugle, l'ancien aveugle, se prosterne aux pieds de Jésus et l'adore. Mais entre-temps, c'est très étonnant, Jésus le laisse avec les religieux. Et voilà ce que dit cet aveugle aux religieux. Un jour de conversion, je le rappelle. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Non, voilà ce que disent les religieux plutôt à l'aveugle. Et voilà comment il va répondre. Les religieux disent à l'aveugle, l'ex-aveugle, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons d'où il est. Et voilà ce que répond celui qui était aveugle. Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Voilà ce que cet ex-aveugle, voilà ce dont il témoigne très spontanément sur la base de « J'étais aveugle, il m'a ouvert les yeux ». Et regardez la vision spirituelle que d'emblée il a. C'est l'esprit qui nous enseigne. Et là, les religieux lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes !» Et ils le chassèrent. Et ensuite, cet aveugle, ex-aveugle, va trouver Jésus. Et là, Jésus va se manifester à lui. Un jour de conversion. Combien il est important, quand on rencontre en particulier des jeunes convertis, des gens qui viennent de rencontrer le Seigneur, que de respecter l'œuvre de Dieu dans leur vie, en accompagnant cette vie et cette croissance, plutôt que de vouloir absolument asséner nos propres conceptions et nos propres idées. Je me suis toujours demandé pourquoi, quand on lit en particulier le livre des Actes, on a l'impression que les conversions et les métamorphoses intérieures et la maturité viennent extrêmement vite. Ça vous a jamais frappé, ça ? On a l'impression, hop, ils reçoivent la parole, tac, ils sont baptisés de l'Esprit, hop, ils entrent dans la vie chrétienne, voire parfois le martyr, et on a l'impression que ça dure quelques semaines, quelques mois, et nous, on a l'impression que ça dure des années, et des années, et des années. Je dis, mais qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi est-ce que parfois on a l'impression que ça dure des années, là où quand je lis le livre des Actes, j'ai l'impression que ça se fait assez rapidement ? Ben, la différence, je pense, tient au respect de l'œuvre de l'Esprit chez quelqu'un. En fait, l'Esprit est extrêmement efficace pour nous amener à la maturité. Et on se rend compte dans la pratique que pour arriver à la maturité, on est confronté à des tas d'obstacles et que malheureusement, souvent, les obstacles, ils sont dans l'Église même. Parce qu'on a une anthologie, on a notre manière de faire, on a... Oui, c'est ça, c'est quand même... Moi, c'est quelque chose... J'ai quand même maintenant, je suis dans ma 35e année de marche avec le Seigneur. C'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Alors, je ne devrais pas être étonné que l'Église est le terrain de bataille spirituelle par excellence, mais ça le devient si l'Esprit de Dieu n'est pas dominant dans une Église. Donc, en fait, tout a trait à la place que l'on laisse à l'œuvre de l'Esprit de Dieu, y compris chez les jeunes, qui, au bout d'une journée, si on les laisse faire, même avec une journée, sont capables déjà de nous enseigner, parce qu'ils seront tous enseignés de Dieu. C'est frappant, hein ? Moi, ça me frappe toujours. Et enfin, le dernier point de cette première partie, c'est une bonne nouvelle. Rencontrer Jésus est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Bah parce que le Jésus que l'on rencontre nous est favorable. Il nous est propice. C'est ce que dit, par exemple, l'Épître aux Hébreux. Qui, à l'image du propitiatoire qui était sur l'arche de l'Alliance, il faut que j'explique un tout petit peu ça. Il y avait une arche de l'Alliance et à l'intérieur, il y avait les tables de la loi. Et les tables de la loi nous condamnent. Elles condamnent notre chair. Selon la loi, nous ne méritons que la mort. La lettre tue. Et c'est le ministère de la loi que de mettre à mort notre chair, de mettre à mort toutes nos prétentions à pouvoir plaire à Dieu en nous-mêmes. Mais au-dessus des tables de la loi, il y avait ce qui s'appelle le propitiatoire. Et quand le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints en présence de l'arche, il versait sur le propitiatoire le sang qui couvre la condamnation de la loi. Et par le sang versé, Dieu nous était rendu, ou leur était à l'époque et nous est encore aujourd'hui, rendu propice. Par le sang de l'agneau qui a été versé à la croix. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis que le Jésus que nous rencontrons est un Jésus qui nous est propice, qui nous est favorable. Donc, le Jésus que j'ai rencontré il y a 34 ans, était un Jésus qui m'était propice, favorable. j'allais dire, avec un visage accueillant, un visage encourageant. Et en 34 ans, il n'y a que dans une seule situation, que je ne vais pas développer ce matin, où quelqu'un a réussi à me faire douter de ça. Dans une situation de conflit très dure. Heureusement, ça n'a pas duré. Donc, Jésus nous est favorable. Il est important de comprendre, quand on l'a rencontré, on a rencontré un Jésus qui nous est favorable, qui est l'ami des pécheurs, qui est là pour nous aider, pour nous sortir de nous-mêmes et nous attacher à lui. Et dans Hébreux 9, il était question de l'arche de l'Alliance, et c'est l'idée que Paul reprend dans Romains 3, quand il dit « C'est lui que Dieu, en parlant de Jésus, a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. » Donc c'est Jésus qui accomplit le rite du sang versé sur le propitiatoire. Donc Dieu n'est pas un père fouettard, et Dieu n'est pas un laxiste non plus qui nous laisse faire ce que l'on veut. Le simple fait qu'il veuille nous attacher à son fils, qu'il veuille nous conjuguer à son fils, montre bien que quand on est appelé, quand on a rencontré Jésus, on ne peut plus mener notre vie comme on l'a menée avant. Les deux deviennent un. Il devient le maître, on devient le disciple. Il devient l'époux, et nous devenons membres de son corps et participant de l'épouse qui est la Jérusalem céleste. Voilà pour le premier point. Un chrétien est celui qui a rencontré Jésus. C'est le fondement. Sans ça... Deuxième point. En Jésus et en Jésus seul se trouve la vie de Dieu. La vie était auprès du Père, comme il est dit dans le prologue, et cette vie est venue jusqu'à nous, en la personne du Fils. Plusieurs passages dans l'Écriture nous montrent que si Dieu retirait son esprit, nous retournerions instantanément dans la poussière. Parce que Dieu soutient toutes choses par le souffle de son esprit. Et pour ceux qui ont un petit penchant pour la physique, je dirais que si Dieu retirait son esprit de l'univers, nous assisterions à un big crunch. Et c'est exactement ce dont parle l'épître de Pierre quand il dit que quand Jésus revient, les éléments vont s'embraser, tout va fondre. Il retire son esprit, big crunch. Tout disparaît, tout s'enflamme. Donc, la vie, bien évidemment, dont on parle ici, c'est la vie de l'esprit. Retire la vie, il n'y a que la mort. Épître de Jean, chapitre 1, verset 4. En elle, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire en Jésus, est la vie et la lumière de l'homme. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et je me pose toujours la question, mais c'est quoi le lien entre la vie et la lumière? Pourquoi dire la vie, sa vie, c'est notre lumière? Quel rapport entre la vie et la lumière? Alors déjà, dans le monde naturel, est-ce que quelqu'un a une idée du lien qu'on peut établir dans le monde naturel entre la vie et la lumière? Que quelqu'un ait une idée?
Photosynthèse.
Sans la lumière, pas de photosynthèse, pas de monde des plantes, sans le monde végétal, pas de monde animal. Donc en fait, nous dépendons complètement de la lumière physique. Si le soleil s'éteint, les plantes finissent par mourir, les animaux s'entremangent entre eux et à un moment, c'est terminé. Donc là, on a un petit lien très simple. Mais ça va, je pense, beaucoup plus loin. Et c'est le point auquel je veux parvenir. La vie de Jésus est notre lumière. Si la vie, c'est la lumière, la mort, ce sont les ténèbres. Mais la mort ne veut pas dire qu'on ne gigote pas. Prenons l'exemple de Satan lui-même. C'est un être qui est spirituellement mort, profondément enfermé dans ses propres ténèbres, et pourtant il lutte contre Dieu, il agit, Voilà, il a des stratégies pour tâcher de lutter contre la venue du roi des rois et du vainqueur des vainqueurs. C'est ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse. Donc, c'est pas parce qu'on est spirituellement mort qu'on ne gigote pas. On a l'image mort, ça veut dire un cadavre qui se décompose de la poussière. Non, on peut être spirituellement mort et néanmoins agissant. Mais, et c'est là la grande différence, donc ça c'est la manière dont je le comprends. Quand on a rencontré Jésus, se développe en nous un principe de vie par l'Esprit de Dieu qui nous rend, d'abord qui nous fait croître, donc qui met en place une dynamique. Souvent on parle de la puissance de l'Esprit, mais le mot qui est employé c'est le mot dynamis. Donc j'aime bien dire la dynamique de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous fait marcher, qui nous fait avancer, qui nous révèle l'Écriture. Il y a constamment ce mouvement, ce bouillonnement de vie. Quand on ne connaît pas cette vie qui est en Jésus, il ne reste que l'imitation. Et c'est ça qui est absolument terrible. Quand on imite la vie chrétienne avec nos propres forces et notre connaissance, mais qu'il n'y a pas cette abondance de vie, et cette eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau, dit Jésus à la Samaritaine, cette dynamique de vie qui va croître jusqu'à dans la vie éternelle, où, comme on l'a partagé hier, nous passerons l'éternité à découvrir le Père. Un Père qui nous dépasse tellement qu'il a fallu que le Fils vienne pour qu'on en ait une vague idée. Celui qui voit le Fils a vu le Père. Mais si on ne connaît pas cette dynamique de vie, nous sommes dans l'imitation. Ça veut dire le diable qui est enfermé dans ses ténèbres, ne fait qu'imiter Dieu. C'est un singe qui imite Dieu. Il ne peut rien concevoir de lui-même, il ne peut que singer, imiter, tordre ce que Dieu fait. Dieu est vivant, il initie, il est dans la dynamique de vie. Le diable ne peut qu'imiter de manière charnelle, de manière pécheresse, de manière égocentrée, de manière psychopathe. Et c'est ça le drame quand on regarde par exemple à nouveau l'évangile de Jean et l'opposition qu'il y a eu entre Jésus et les pharisiens, les religieux qu'il avait en face. Il avait des gens qui imitaient la piété, qui imitaient la soumission à Dieu et à la loi, mais à qui Jésus va devoir dire « Mais vous avez pour père le diable. Vous imitez, mais vous n'avez pas la vie. » Donc faisons vraiment attention à ça. Quand on a rencontré Jésus, il y a une dynamique de vie qui se met en place en nous et on avance et on grandit, on croit, on voit toujours plus l'horreur de notre chair, mais on voit toujours plus la beauté de Jésus. Les deux vont toujours ensemble. Le détachement de soi et le regard porté sur le Fils. Mais quand on n'a pas rencontré Jésus et qu'on n'a pas reçu cette vie, en fait, nous imitons. Et nous faisons comme tout le monde, donc on imite en adhérant, comme je l'ai dit au départ, à une théologie, en devenant membre d'une église, mais on est constamment dans l'imitation, on se copie les uns les autres, mais il n'y a pas cette dynamique de vie en nous. En Jésus seul est la vie. Donc, quand j'ai dit dans le premier point que Jésus nous est favorable, ça ne veut pas dire « Ah, ben Jésus nous est favorable !» Maintenant, on se laisse porter. Non. C'est précisément parce qu'il nous est favorable et qu'il nous a révélé cette face propice qu'il faut le rechercher. Qu'on se lance dans la quête de le rechercher pour expérimenter sa vie en nous. Donc, rien n'est acquis à l'appel. Ce n'est que le début. La semence a été semée. Maintenant, on enlève les cailloux, on enlève les ronces. Ça s'appelle la repentance. Pour que la plante grandisse, pour que Jésus grandisse en nous. Donc, ce n'est pas parce qu'il nous est favorable qu'on ne fait plus rien. Non, on le recherche. On cherche à expérimenter sa vie en nous. Non seulement, comme j'aime bien le dire souvent, nous en Jésus. On dit souvent, ah, nous sommes en Jésus. Mais également, Jésus en nous. C'est ce qui est dit dans l'évangile de Jean 14, 15, 16. Vous en moi et moi en vous. Souvenez-vous de Jean 15, c'est absolument terrible. Celui qui est en moi et ne porte pas de fruits, le rameau, il est coupé, séché et jeté au feu. Je dis, mais attends, j'ai bien compris. Le sarment, il est en moi, mais il ne porte pas de fruits. Donc, si vous regardez un petit peu, faites une petite recherche de la parole avec le « nous en lui et lui en nous », vous verrez qu'il faut les deux. On peut être en Jésus, mais ne pas porter de fruits. Appelé, mais pas élu. Sorti d'Égypte, mais n'entrant pas dans Canaan. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à l'église de Laodicée. Parce que tu es tiède, je vais te vomir. Laodicée était bien dans Jésus. Mais Jésus est obligé de le faire sortir. Donc, l'important, ce n'est pas seulement d'être en Jésus. Comme les Israélites, il est dit dans 1 Corinthiens 10, ont été baptisés en Moïse. Mais il faut également que Jésus soit en nous, que Jésus vive en nous par son esprit. Donc il y a un cheminement qui mène de « je rencontre Jésus » et ensuite sa vie s'exprime en moi, sa vie s'exprime au travers de moi. Et entre les deux, c'est le désert, entre les deux, c'est la repentance. Et la repentance est sans doute la chose la moins prêchée dans les églises aujourd'hui. Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que ça veut dire? Se repentir. Est-ce que c'est simplement dire « oh, je suis pécheur » et Jésus est mort pour moi. Vous voyez ? C'est bien plus profond que ça. C'est vraiment voir à la lumière de l'Esprit de Dieu, à la lumière de sa vie, quelles sont les profondeurs de ma propre chair. Comment se détacher de ma chair si je n'en ai pas vu l'horreur ? Comment être gracié si je ne me sais pas condamné ? Alors, ce n'est pas le thème que je vais développer, bien évidemment, aujourd'hui. En plus, je vois que le temps avance. Mais voilà, c'est juste pour alerter que, un, c'est Jésus que nous devons rencontrer. Et deux, quand on l'a rencontré, il y a une dynamique de vie qui est en train de se mettre en place. Si ce n'est pas Jésus qu'on a rencontré, en fait, nous vivons dans l'imitation de la vie chrétienne. Et j'en arrive au dernier point. Un, Jésus. Deux, la vie qui est en Jésus. Trois, la communion les uns avec les autres. Et c'est ce que dit à nouveau Jean, en tout cas l'auteur, dans le prologue, ces choses que nous avons vues et écoutées, nous vous les faisons connaître afin que vous soyez en communion avec nous. Donc la communion n'est possible que si, un, on a rencontré Jésus et que sur la base de cette rencontre avec Jésus, se met en place la dynamique de vie de l'esprit et automatiquement nous allons nous retrouver en communion les uns avec les autres. C'est pour ça que je l'ai déjà dit. Et là, je le dis sans vouloir vous flatter, mais combien j'apprécie, par exemple, que la parole soit donnée à l'Assemblée. Il est important que nous soyons tous participants de cette dynamique de l'Esprit au sein de l'Assemblée. Il n'y a pas le sachant et les ignorants. Le messager et ceux qui écoutent. C'est une dynamique qui est commune, chacun a quelque chose à apporter. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir, à mon sens, cette vision de l'Église où on reconnaît évidemment les capacités des uns et des autres, mais où tous peuvent s'exprimer. En particulier parce que l'Esprit parle par la bouche des enfants. L'Esprit très souvent nous humilie en adressant au travers d'un frère ou d'une sœur une parole qui nous touche et on se dit « mince, ça fait 20 ans que je lis la Bible et je n'avais pas compris ça ». Et ça nous vient par quelqu'un, par quelqu'une. Il faut constamment être dans cette surprise. Ça fait partie de la dynamique de l'esprit de vie. Dieu peut nous parler par des voix, comme il est dit au départ, des voix qui nous paraissent viles, faibles et folles. Et Dieu le fait pour confondre les orgueilleux, pour confondre les sages, pour confondre les intelligents. Et comme je l'ai partagé avec Abdel hier, c'est précisément quand on a des capacités qu'on est en danger de ne plus entendre l'esprit par ce qui nous paraissent « petits » entre guillemets. Il faut toujours avoir cette sensibilité. Et le meilleur moyen de le faire, à mon sens, en assemblée, c'est justement la parole qui est donnée à l'assemblée. C'est comme ça qu'on peut être surpris. Donc nous sommes tous soumis en ce sens les uns aux autres dans la crainte du Messie, dans la crainte de Jésus. Il n'y a pas de plus grand. Il y a simplement des dons différents, des capacités différentes, des ministères différents, mais il n'y a pas de hiérarchie en ce sens dans l'Église. Tous en bas, Jésus en haut. Nous soumettons les uns et les autres aux autres dans la crainte du Christ. Donc l'unité, la communion, qui est le troisième et dernier point, l'unité n'est pas une question de forme, de standardisation. C'est parce que nous adhérons tous à la même confession, nous avons tous la même théologie. C'est pas ça qui fait l'unité. Ce qui fait l'unité, c'est quand deux membres, l'orteil et l'oreille, pour reprendre l'image de 1 Corinthiens 12, quand les deux membres, pourtant bien séparés, sont attachés à la même tête. C'est ça qui fait l'unité. Et donc, avoir rencontré Jésus, et donc expérimenter sa vie. Parce qu'un membre dans lequel il n'y a pas de vie, ben, il est nécrosé, on le coupe, on l'ampute. Donc l'unité n'est pas une question de forme, d'uniformité, de comportement, de doctrine, etc. L'unité n'a pas une origine humaine. On ne peut pas la fabriquer. En fait, elle l'est ou elle n'est pas. Parce que c'est l'œuvre de l'esprit qui est automatique dès lors que deux chrétiens se rencontrent et qu'ils ont rencontré Jésus. L'unité est là d'emblée. On cherche tellement dans le monde une unité visible dans laquelle tous les chrétiens, toutes les dénominations pourraient rendre témoignage au monde de leur unité. Je pense profondément que c'est une illusion. Parce que l'unité, elle est dès lors qu'un chrétien rencontre un autre chrétien, quelle que soit leur église, leur dénomination, leur credo, mais du moment qu'ils ont rencontré Jésus, ils sont instantanément en communion. Je ne sais pas si ça vous a arrivé, moi ça m'arrive de temps en temps ça. Vous rencontrez un chrétien que vous n'avez jamais rencontré avant, dès la première fois, clac, ça colle. On se comprend. Et je peux faire une liste de noms comme ça, je dis, ah, ça colle. Tu dis, mais attends, je ne le connais pas et pourtant on se comprend. Vous voyez, c'est l'unité, elle l'est. Ce n'est pas quelque chose que l'homme fabrique, c'est ça que je veux dire. On ne va pas la fabriquer en standardisant les manières de faire et les manières de croire. J'aime beaucoup l'auteur Dietrich Bonhoeffer. Est-ce que vous avez entendu parler de Bonhoeffer ? Non ? Donc c'est quelqu'un qui luthérien. Donc alors, peut-être que toi tu sais mieux. Tu peux nous dire en deux mots ?
C'est quelqu'un qui a vécu dans la résistance sous le Troisième Reich et qui est mort donc, dans un camp de concentration et qui a laissé des livres très voilà. Importants. Par exemple, la Dinar Freud, je ne sais pas comment traduire... Suivre Jésus.
Oui, suivre Jésus, donc je fais, voilà. Dans lequel on trouve le premier chapitre, donc le prix de la grâce, et également de la vie communautaire. Donc c'est un livre vraiment que je recommande, de la vie communautaire, parce qu'il dit la chose suivante dans ce livre de la vie communautaire, que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui m'a vraiment percuté jusqu'à aujourd'hui. Entre deux frères, il doit y avoir l'espace pour Jésus. Autrement dit, il n'y aura d'union avec un frère que si chacun des deux est centré sur Jésus. Jésus en premier, et ensuite le frère paradoxalement en deuxième, et c'est pourtant ce qui garantit l'unité. Parce que chacun est d'abord attaché à Jésus. Entre deux frères, il doit y avoir l'espace. Sinon, nous entrons dans une relation de codépendance. Codépendance, par exemple, à l'égard de l'Église. Et le jour où l'Église disparaît, ma vie chrétienne s'effondre. Le jour où tel frère disparaît, ma vie chrétienne s'effondre. Entre deux frères, entre deux sœurs, entre frères et sœurs, il doit toujours y avoir l'espace pour Jésus. On ne dépend pas d'une église, d'une théologie, on dépend d'abord de Jésus. C'est ce qui permet du coup de bâtir l'église. C'est sur la pierre de la confession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que se bâtit l'église. Vous voyez ? Donc, c'est paradoxal, l'union demande paradoxalement une forme de détachement pour que je sois d'abord dépendant de Jésus avant que de dépendre des hommes, des institutions, etc. C'est vraiment ce que j'ai retenu de ce message de Bonhoeffer et qui va dans la suite donc, de tout ce que j'ai dit avant. Jésus, sa vie, d'où résulte la communion. Il y a un lien direct. On rencontre Jésus, on expérimente la dynamique de vie. Et du coup, on est en communion avec ceux qui ont cette dynamique de vie. Et toute la suite de l'épître, et je vais arrêter avec ça, toute la suite de l'épître va dérouler ce thème. Le thème des ténèbres par rapport à la lumière. Le thème de l'amour par rapport au thème de la haine. Il va dérouler de manière pratique ce que signifie que d'avoir rencontré Jésus, que d'expérimenter la dynamique de vie et que de nous retrouver ensuite en communion les uns avec les autres. Et le dernier point, donc, on peut voir dans le prologue une forme de formulation trinitaire, parce qu'il dit d'abord, il nous parle de la bonne nouvelle qui est Jésus, de cette vie qui en Jésus nous est venue du Père, verset 2, et la conséquence de ça, c'est l'expérience de la joie. Et si vous faites une petite recherche dans la parole, la joie, c'est la marque même de l'esprit. L'esprit, il est joyeux. Quand on a l'esprit, à l'intérieur, on est joyeux. Il y a une joie. Et c'est très étonnant de voir que cette joie de l'esprit, Jésus l'éprouvait alors même qu'il était à quelques heures ou quelques petits jours de sa mort. Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses, » donc l'image du sarment et des cèpes, « afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc Jésus est entré dans la mort avec la joie de l'esprit à l'intérieur. Et ensuite, donc on verra lors de en avril, quand on parlera de la Pâque, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une lutte entre son âme et son esprit, l'agonie de Gethsémané, l'abandon à la croix, mais l'esprit a toujours pris le dessus pour se soumettre au Père et rester dans une paix parfaite et dans la joie. En échange de la joie qui lui était réservée, dit l'Épître aux Hébreux, il a souffert l'ignominie. C'est étonnant. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert l'ignominie. La joie est la marque de l'esprit. Et on retrouve les trois, la parole, verset 1, le Père, verset 2, la joie au verset 4. Donc là, en fait, il nous est en train de parler de toutes les dimensions, en fait, de Dieu lui-même. Le Fils, la vie, la communion par l'Esprit.